Alors, servir l'humain par la prière, en fait, j'ai fait quelque chose de très très bête, si je puis dire. J'ai suivi l'intitulé Servir l'humain, la prière. Donc, j'ai fait trois parties, en fait. Je ne sais pas si c'est affiché, oui. Voilà, en fait, les trois parties, c'est la première partie est centrée sur, disons, une réflexion sur le service, en particulier le service dans l'Église, mais aussi le service, on va dire, à un plan de la relation humaine. Ça pose quelques problèmes quand même. Après, évidemment, je me suis arrêté sur l'humain, parce qu'on ne sert pas n'importe qui, on ne sert pas n'importe quoi. Et l'être humain, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Et là, je ferai davantage appel à je vous raconterai une expérience que j'ai faite qui a, je peux dire, changé ma vie au monastère. Je peux dire ça comme ça, oui. Et la troisième, servir l'humain par la prière. Alors, par prière, évidemment, c'est plus large que la prière elle-même. Disons, c'est la fréquentation du Christ, en particulier à travers les évangiles, et puis aussi un mystère dont nous avons bien du mal souvent à parler, le mystère trinitaire, qui me semble être très, 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 très éclairant sur ce que nous pouvons entendre par servir l'humain. Bon, ça, vous allez voir, ça va vous paraître peut-être un peu loin au départ, la Trinité, servir l'humain, mais en fait, non. Si le mystère trinitaire est vraiment au cœur de notre foi, ça veut dire que ça doit irriguer toute notre pratique. Sinon, ce n'est pas le centre de notre foi, quoi. Voilà, vous voyez, donc en fait, j'ai simplement suivi le titre, en fait, hein. Donc, servir, ben, comme je vous marque, petite introduction, servir, ben, oh oui, bien sûr, nous avons tous envie de servir. Si on peut rendre service, on est content, enfin, même si je sais bien que l'être humain n'est pas spontanément amoureux, serviable, tout ce qu'on voudra. On parle beaucoup d'incivilité actuellement, mais quand même, au fond de nous, il y a une propension à servir, à soigner, à rendre service. Il y a ça en nous quand même. L'être humain, il est fait quand même comme ça. Jean-Jacques Rousseau, il dit que vraiment la compassion peut définir ce qu'est un être humain. Même quand on voit tomber quelqu'un, ça nous fait rire. Parce que bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça nous fait rire, vous voyez, la dame, elle rit. C'est que, voilà, mais quand même, on se précipite pour aider la personne, surtout si on voit qu'elle est en difficulté. Bon, il y a des cas où on a un accident, la personne fuit, mais elle fuit pas parce qu'elle fuit parce qu'elle a peur d'abord, hein, pas parce qu'elle n'a pas envie d'aider, quoi. Donc voilà, on peut dire vraiment que la compassion est quelque chose qui est très profondément humain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le trouve pas dans le monde animal, hein, mais quand même, c'est quelque chose qui est quand même très humain, très profondément humain. Mais cette question, évidemment, mérite d'être regardée de près car il est si facile de passer à côté de quelqu'un. Hein, les soignants en particulier, hein, savent très bien cela. On peut très bien passer à côté de quelqu'un très facilement. Donc, dans le service, finalement, ce qui est surtout en jeu, c'est la relation. Hein? Ça a l'air bête, mais bon, il faut quand même le redire. Une relation humaine n'est jamais évidente. Donc, à partir du moment où, dans le service que je rends à quelqu'un, c'est la relation qui est en jeu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Alors, c'est ça que je voudrais interroger, vous voyez, en première partie. Donc, servir, bien sûr, mais il faut quand même reconsidérer en profondeur la notion de service, quoi. Alors, bon, parfois, je suis un peu incisif, excusez-moi, je suis un tout petit peu anticlérical quand même, de par ma famille. Vous inquiétez pas, hein, j'aime beaucoup l'Église, mais voilà, bon, dans mon sang d'espagnol anti-franquiste, il y a quand même des choses qui passent, quoi. Mais vous inquiétez pas, c'est pas méchant, voilà. Mais bon, il faut de temps en temps dire les choses quand même. Hein. Et alors, bon, ce mot service, j'ai commencé à le regarder tout de suite, mot très employé dans la tradition chrétienne, en particulier catholique. Hein. Pensez au titre que se donnent les évêques, moi, serviteur indigne, on entend ça dans la prière, et le pape, serviteur des serviteurs de Dieu. Enfin, vraiment, le mot service est un mot très, très employé. Tous les ministères dans l'Église sont considérés comme des services. Très bien. Et pas seulement le diaconat. Pensez L'évangile de Jean 13, qui est un, comment dire, qui est un évangile qui va très très vite voilà, être notre référence pour dire à quelqu'un, c'est comme ça que tu dois servir dans l'Église. Vous voyez, hein? Alors cette présentation du service, cette identification, soulève quand même une difficulté majeure. Alors c'est là que je vais avoir mon petit moment anticlérical, vous inquiétez pas, mais ça ne va pas durer. Quand même, c'est une manière d'habiller le pouvoir. Bon, je le dis un petit peu directement, mais quand même, c'est ça. Ce qu'on appelle service dans l'Église, c'est quand même un pouvoir que l'on confère à quelqu'un, et on n'emploie pas le mot pouvoir. On parle de service, et moi, ça, j'avoue que ça me gêne, vous voyez, ça me pose question. Si c'est le bon Dieu, il faut répondre, hein. Alors, donner un service à faire à quelqu'un, un ministère, ce qu'on appelle le mot ministère, ça veut dire service, hein, c'est lui conférer un pouvoir. Pouvoir de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Alors, justement, cette impossibilité pour les autres de pouvoir faire ça, par exemple de célébrer l'Eucharistie, c'est un service que quelqu'un rend parce que les autres ne peuvent pas le faire, vous voyez? Mais vous comprenez bien l'ambiguïté de la chose, hein? On aboutit finalement à l'effet inverse, au bout du compte, puisque c'est le ministre qui devient premier et non celui à qui on rend un service. Alors, idée sous-jacente de séparation, d'élitisme, vous voyez, si on pense à l'école française de spiritualité du XVIIe siècle, elle a donné du prêtre, excusez-moi mon père, elle a donné du prêtre l'idée quand même d'un surhomme, d'un homme au-dessus des autres, un homme qui est serviteur. Vous voyez? Alors moi, je pense toujours quand je pense service, je pense toujours à la femme de ménage. J'imagine mal quand même que quand on donne à la femme du ménage le service du ménage, on ne lui confère pas quand même un pouvoir. Enfin, le pouvoir du balai, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, vous voyez, quand on parle de service, quand une femme de ménage, enfin un homme ou une femme, fait le ménage, on a tout de suite du mal à imaginer que c'est un pouvoir qu'on lui confère. Alors comment ça se fait que dans l'Église, quand on pense service, quand on parle service, c'est pas ça qui se passe. Il se passe autre chose, vous voyez? Donc ça me paraît être une difficulté vraiment majeure et qu'il faut absolument souligner, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, là, à mon avis, hein. Deuxième difficulté qui tient, elle, à la nature relationnelle du service, hein, entre deux personnes aux capacités inégales, hein, parce que quand je rends service à quelqu'un, ça veut dire que je fais quelque chose qu'il ne peut pas faire, même si c'est provisoire, donc ça crée une relation inégale, vous voyez? Et dans une relation inégale, il y a forcément le risque du pouvoir qui vient se glisser. C'est obligé, hein, on ne peut pas faire autrement. Relation d'aide, de dépendance, en plus qui paraît exclure la réciprocité, je te rends un service que tu ne peux pas me rendre. Hein, oui, c'est compliqué, c'est quand même pas évident. Donc, là aussi, au plan humain, il y a vraiment le risque d'un véritable pouvoir qui est en jeu. Donc, vous voyez, rendre service, finalement, ça doit être questionné quand même. Hein. Alors, deux autres difficultés liées aux deux premières. Mais je pense que je vais finir à 4 ans moins le quart, hein, vous allez voir, c'est super. Ça va très très vite en fait. Donc, deux autres difficultés liées à ces deux premières. Voilà, c'est en fait finalement, je traite un problème, ce pourquoi je rends service à l'autre. Hein, je traite donc un problème, au lieu de percevoir l'autre dans sa totalité de personne. Alors, je vais vous raconter un truc personnel qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je suis allé chez le podologue. C'est une femme. Elle est très bien, hein? J'ai rien contre les femmes. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Donc je lui ai dit que j'avais mal au pied, enfin j'avais un problème au pied. Elle a regardé mon pied, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Alors, premièrement, moi je dirais quand même, le malade, il sait quelque chose quand même. Non, enfin, je veux dire, voilà. Et la deuxième chose, voilà, au lieu de s'occuper de moi en tant que personne, en fait, s'il y a une personne qui a un problème au pied, elle a regardé mon pied, elle a interrogé mon pied, Et comme dans le pied, il n'y avait pas de problème, elle m'a dit, mais monsieur, vous n'avez rien, vous pouvez repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on traite le problème alors que c'est une personne qui vient avec un problème. Voilà, et ça, c'est le risque toujours du service, c'est qu'on va avoir tendance à isoler un problème, et donc la relation à la personne, en fait, ne se fait pas. Vous voyez? Alors, par exemple, aussi, quand on traite l'alcoolisme de quelqu'un, vous voyez, on va avoir tendance aussi à traiter le problème. Mais non, c'est là, c'est une personne qui est alcoolique, ça n'a rien à voir avec le. Vous comprenez là? Et donc, on va vite aller vers de l'incrimination. Hein, vous voyez, c'est le. Finalement, le problème que je suis en train de traiter dit bien que toi, tu es réduit à un problème. Et ça, vous comprenez que c'est anti-thérapeutique immédiatement. Hein. Donc, je réduis l'autre au service que je lui rends, en fait. Et ça, c'est une façon clairement de prendre le pouvoir. Alors, deuxième chose aussi qui, alors là, c'est plus dans l'univers chrétien, je pense, mais c'est pas sûr que ce soit que chrétien, c'est le caractère hautement vertueux du service. En fait, le service, quand je rends service, je suis plutôt du côté de la vertu. Et souvent, je me suis rendu compte, moi, j'aime pas trop la vertu, mais en fait, bon, passons. Mais quand on est du côté de la vertu, très très vite, on est égocentré. Vous voyez? Ça, c'est, je crois que c'est un point qu'il faut regarder de près. L'accent est mis sur celui qui effectue le service. Notre manière de considérer la vertu est souvent égocentrée. Alors, c'est peut-être un héritage de la morale antique, hein, qui met l'accent sur l'individu, en fait. Il faut savoir que la relation n'était pas considérée dans l'Antiquité comme une valeur, vous voyez? Et donc, parce qu'en fait, on considérait la personne surtout comme étant autosuffisante, indépendante, vous voyez, libre. C'était ça qui était premier. Dans le monde chrétien, en fait, ce qui est premier, si ce qui est premier, c'est l'amour, ça veut dire qu'on va mettre en premier la relation. Comprenez? Et alors, si je regarde par exemple la manière dont saint Paul, on va dire, parle de la vertu chrétienne, eh bien, voilà ce qu'il dit. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Voilà la seule dette que je dois à quelqu'un. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. Toute la loi morale, pour saint Paul, c'est d'aimer. Si j'aime, j'accomplis toute la loi. Voyez? Alors, il rappelle tous les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, etc. Tout ça se résume dans une formule, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Voilà, on peut dire, la manière chrétienne de considérer finalement la vertu. La vertu, elle est toujours le contraire d'un égocentrisme. Vous voyez? Donc voilà. Donc, ce que j'étais en train, disons, de regarder de près dans la notion de service, c'est que quand je rends service, je suis vertueux. Donc, ça risque toujours de m'égocentrer. C'est un problème. Voyez? Donc voilà. Alors, tout cela peut se résumer de cette manière. Le service risque finalement de nous centrer sur nous-mêmes. C'est ça finalement le problème. Alors soit c'est un acte vertueux qui nous centre sur nous, soit c'est un acte de pouvoir déguisé en tenue de service, on peut dire. Hein. Le besoin de l'autre n'est donc plus qu'un prétexte à l'exercice de ma charité. Ce qui est épouvantable, il faut quand même le dire. Enfin, si c'est la charité, c'est ça. Si l'autre est un prétexte, ça veut dire que la charité, elle n'existe plus, quoi. Hein. Enfin, vous voyez. Hein. Un vrai piège, car il s'agit d'une véritable inversion. Je parais tout orienté vers l'autre dans mon acte. Hein, je suis au service, vraiment, je me dépense pour toi, etc. Mais en vérité, mon moteur profond ne concerne que moi-même. Alors évidemment, je caricature un peu. C'est jamais tout noir, tout blanc, mais quand même, quoi. Il faut s'interroger là-dessus très fort. La vraie question posée par le service rendu est la question du décentrement de soi. En fait, finalement, c'est ça. Il y a service à partir du moment où j'accepte de me décentrer. Si j'ai pas ça, il n'y a pas de service. Enfin, du moins, c'est ce qui me semble. Donc, aux difficultés soulevées que je viens de signaler plus haut, là, il faut ajouter celle-ci, en plus, comme difficulté, on va dire, encore majeure, je vais nécessairement, moi qui rends service, partir de moi-même. Je vais partir de ma projection sur l'autre. Je ne peux pas faire autrement, hein. Je vais partir de mon cadre mental, de ma manière de faire. Je vais forcément imaginer le besoin de l'autre à partir de moi. Et ça va aussi m'empêcher de rencontrer l'autre et finalement de me mettre à son service. Donc vous voyez quand même, je pense que cette première partie se justifiait. Alors évidemment, le tableau paraît sombre, hein. On se dit, voilà, il reste plus rien. Mais si, vous inquiétez pas, hein, c'est que le début, hein. J'ai 3h25, ça va. J'ai encore une demi-heure pour sauver le monde, tout va bien. Mais ce que je veux dire, voilà, il faut quand même partir de la réalité pour prendre conscience finalement. Que voilà, il y a un vrai risque. Et comme nous sommes chrétiens, enfin je pense, pour la plupart d'entre nous, il faut toujours penser au mystère, il faut toujours penser mystère pascal. Le mystère pascal, il commence toujours par la mort. Donc la vérité du Christ, la vérité de Dieu en nous, elle produit d'abord, disons, quelque chose qui peut assombrir. Mais c'est toujours dans une perspective de vie, vous voyez. Et si on ne fait pas ce chemin-là, il y a peu de chances qu'il y ait la résurrection au bout. Hein. Donc il faut accepter de passer par cette vérité, par cette zone d'inconfort, on va dire. Alors justement, pour l'Évangile nous rappelle ce qu'on appelle la règle d'or. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cette règle que l'on trouve dans de très très nombreuses traditions et qui est un peu une sorte de résumé on va dire, de ce qui est l'essentiel de l'amour. Vous devez vous rappeler, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Vous vous rappelez, hein? Donc c'est ce qu'on appelle la règle d'or. On la trouve dans Matthieu, c'est dans le discours sur la montagne, en Matthieu 7, hein? On trouve le parallèle en Luc 6. Bon, je ne veux pas vous noyer de référence, pas la peine. Et cette règle d'or, elle est aussi connue dans son versant négatif, hein, que l'on trouve dans le livre de Tobie. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. Il faut faire attention à ce qu'on appelle cette règle d'or, qui est une règle, disons, que l'on trouve dans beaucoup de traditions, hein, pas simplement chrétiennes. Hein. C'est, on va dire, c'est de la morale humaine de base très très fondamentale. Mais il y a un petit attention. Il faut faire attention à quelque chose. Il faut faire attention à son interprétation. Parce que c'est une règle à caractère universel et non pas individuel. Ce qui veut dire que pour la comprendre, je ne dois pas partir de moi. Sinon, je vais me faire le centre. Vous voyez? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Cette règle ne fait pas de chaque homme le centre de tout. Une sorte, vous voyez, d'autoréférence, mais elle m'ouvre à l'universel. Elle m'apprend à me mettre, en fait, à la place d'autrui. C'est-à-dire, vous voyez, ce n'est pas une règle qui me met au centre en me disant, voilà, imagine ton besoin, donc, hop. Fais-le pour l'autre. C'est pas ça qu'elle nous dit, cette règle. Elle nous dit que pour comprendre le besoin de l'autre, il faut que je me mette à sa place en pensant que lui, il va aussi respecter cette règle. Donc le seul moyen que j'ai, disons, de faire à l'autre ce que je veux qu'on fasse, eh bien, il va falloir que je devine ce que l'autre voudrait que je lui fasse. Donc vous voyez, ça m'oblige à sortir de moi-même, à me décentrer. Donc c'est ça, c'est une règle à caractère universel. Si vous ne comprenez pas, je n'ai pas le droit de vous poser des questions, on m'a dit, mais on reprendra ça après, il hein, faut respecter les règles, hein. Je ne suis pas bénédictin pour rien. Et donc voilà, mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les questions après. Mais c'est très important de voir que cette règle d'or, c'est une règle universelle, pas personnelle, pas individuelle. Hein, c'est très important. Alors évidemment, quand je vous dis je me mets à la place d'autrui, c'est un peu ambigu comme expression, hein. Donc je me mets à sa place et donc je nie son altérité. Je l'efface en tant qu'autre. Je le réduis à moi-même, je l'absorbe en moi. C'est ça le risque, est de prendre sa place. Mais la règle d'or ne dit pas ça. Elle dit au contraire, elle dit tout à fait autre chose. En fait, elle m'apprend à me quitter et c'est moi qui fais l'effort d'aller dans le lieu de l'autre. C'est ça la règle d'or, vous voyez? Hein? C'est l'autre qui m'offre son hospitalité. J'envisage l'autre à partir de l'autre. Mais c'est ça que je dois apprendre à faire. C'est ça la règle d'or. En faisant consciemment cette sortie de moi-même. Parce que si je ne le fais pas de manière consciente, mon inconscient va faire que je prends toute la place. Voyez? Donc il faut vraiment le poser comme un acte conscient. Je fais vraiment l'effort de me quitter pour essayer de comprendre, d'épouser ton besoin, ta manière de voir. Voyez, hein? Alors, il ne s'agit pas de disparaître dans l'autre, hein, surtout pas, car il est essentiel que je reste moi-même pour pouvoir aller chez lui. Si je disparais en lui, il n'y a plus de jeu, hein, donc c'est plus la peine, hein, c'est pas la peine. Et c'est le meilleur moyen, si vous voulez, comment vous dire, dès qu'il n'y a plus jeu face à jeu, il n'y a plus de relation. Hein, comme dit magnifiquement Maître Eckhart, pour être un, il faut être deux. J'adore ça, moi. Pour être un, il faut être deux. Hein, vous savez qu'on a une vision de l'unité qui est plutôt vraiment une sorte de réduction à l'unité. En fait, non. Enfin, d'après Maître Eckhart, hein, c'est pas moi qui, je vous le cite pour vous le dire. Donc, le seul moyen d'être uni à quelqu'un, c'est de rester absolument face à lui. Sinon, je ne peux pas m'unir à lui. Vous voyez? Donc il s'agit d'être un, mais en restant deux. Ça c'est tout à fait la vision, on va dire, chrétienne, hein, disons. Alors prendre la place d'autrui, donc sans quitter ma place. Hein, attention. Prendre sa place signifie donc adopter son regard, me mettre dans sa position. Seul l'autre peut me donner sa position, son regard. Moi, je ne peux pas, j'ai pas accès par moi-même. Il faut que ce soit lui qui me le donne. Donc, prendre sa place, sa position, c'est la recevoir de lui. Voyez? Donc, ça, je trouve que c'est très beau, cette manière de. Cet acte conscient que je fais de me quitter, eh bien, c'est finalement, c'est l'autre qui me donne de le faire. Voyez? Je trouve que c'est très beau. Et ça, vous allez voir, ça, c'est vraiment le mystère trinitaire. C'est ça que je dirais tout à l'heure. Mais bon, il faut garder un peu de suspense. Ça, c'est pour réveiller les endormis. Dès qu'on parle de la Trinité, de toute façon, tout le monde se réveille. Donc voilà, il faut. Mais le mystère trinitaire, finalement, c'est ça qu'il nous dit, de manière mystérieuse, certainement, mais quand même, c'est très important. Donc finalement, il me faut absolument connaître cet autre au-delà de son besoin élémentaire, au-delà de moi-même, parce que je suis un obstacle, d'une certaine manière, à la connaissance que je vais avoir de l'autre. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Mais quand même, je dois dépasser cet obstacle. Qui est-il, cet autre, cet humain que j'ai en face de moi? Et vous avouerez que c'est une manière tout à fait habile pour amener la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un être humain? Vous voyez, bon, les ficelles sont grosses. Hein, bon, c'est gros, hein, c'est très très gros. Bon, ça, vous pouvez couper, vous coupez ce baratin d'une minute, là. Je vous laisse faire. Ce que je veux dire, voilà, c'est que finalement, on en arrive à ça. Servir l'autre, servir l'humain, mais c'est qui l'humain? Voilà, il faut quand même se poser la question, quoi, vous voyez? Alors, c'est là que je voudrais vous raconter une expérience vécue. Alors là, je vais vraiment vous raconter une histoire. Hein, les enfants adorent ça. Vous aussi, hein, on est d'accord? Voilà. Moi. Quand on raconte une histoire, dans les homélies, les prêtres le savent très bien. Dès qu'ils disent « je vais vous raconter une histoire », tout le monde se met à écouter. Le reste, c'est pas important, mais les histoires, on craque tous. Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au monastère, qui a à peu près 4 ou 5 ans. Et je vais vous donner donc beaucoup de détails, parce que ce sont les détails qui comptent. Alors, c'est vraiment des détails tout petits, hein, vous allez voir. Mais je peux dire que ça a changé ma vie, quoi. Voilà comment Jésus est venu dans ma vie, dans la personne d'un vieux frère, donc frère Joseph, Frère Joseph était un moine qui vivait, moine d'Ankalka, qui vivait dans un monastère africain. Et à un moment, il a commencé, disons, entre guillemets, à perdre la tête. Alors, on met Alzheimer, vous mettez 25 guillemets, parce qu'en fait, tout le monde est un peu plus ou moins Alzheimer maintenant. Donc voilà, en tout cas, il n'était plus capable d'assurer sa vie. Et comme la communauté africaine était quand même. N'était pas habitué à avoir des vieillards encore, donc ils l'ont renvoyé chez nous. Et donc il est arrivé à l'infirmerie et à un moment on m'a demandé de le prendre en charge. Alors donc, avec toute ma générosité, ma charité absolue, enfin tout ce que vous voudrez, je me dis je vais m'occuper de lui. Et au bout de 15 jours, je me suis dit non, 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 c'est lui qui s'occupe de moi, c'est clair. Mais bon. Oui, très vite. Alors, je voudrais dire un petit truc d'abord. Premièrement, j'ai fait l'expérience de mon impatience. Et puis, alors, je ne vais pas dire ça pour défendre la maltraitance, évidemment, mais quand même, j'avais un frère comme ça à m'occuper, et je me suis rendu compte que, ah, l'impatience, parfois, c'était limite, quoi. Vous voyez? Et je me suis dit, alors, ne parlons pas trop vite de maltraitance quand une infirmière ou un infirmier a 20, 30 dans un service qui doit courir partout. Attention, peut-être que c'est à revoir. Vous voyez, ça a été mon expérience à moi personnelle, mais bon, c'est pas ça qui a changé ma vie. Mais je voulais vous dire quand même que voilà, face à ce genre de maladie, quand même, c'est pas si simple que ça. Alors, voilà ce que j'avais vu, moi, qui me posait question. Avant que je le prenne en charge, hein. Premièrement, je voyais que. Alors, il était encore capable de faire la vaisselle avec nous, mais sa manière de faire la vaisselle n'avait pas de sens. Alors, c'était le premier point que je vais interroger, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Le deuxième point, c'était la manière dont le frère qui était chargé de lui le faisait sortir du réfectoire pour le reconduire dans sa chambre. J'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord avec le fait qu'on le tire. Ça me semblait, je me suis dit, ce n'est pas respectueux. Mais bon, moi je voyais ça, mais je ne savais pas que j'allais encore le prendre en charge. Hein. Donc je voyais qu'on. Donc deuxième chose qui me gênait, c'était la manière dont on lui faisait quitter le réfectoire pour le conduire dans sa chambre. Et la troisième chose, c'était bien sûr le repas. On le faisait manger. Je n'étais pas d'accord. Voilà, alors donc c'est ça que je vais vous raconter. Donc je le prends en charge et on me dit, le frère qui me le convie me dit, ce frère ne sait rien faire. Il faut que tu fasses tout pour lui. Alors c'était la toilette, tout, hein, le manger, tout. Mais je sentais que moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire. Donc j'ai commencé, si vous voulez, à réfléchir. Alors sur la vaisselle, donc je le voyais faire la vaisselle, je voyais que ce qu'il faisait n'avait pas de sens pour moi. Mais je me suis dit. Non, si lui pose cet acte comme ça veut dire que pour lui, ça a du sens. C'est pas parce que pour moi, ça n'a pas de sens que son acte n'a pas de sens. En fait, j'ai pris conscience que je n'avais pas accès au sens qu'il donnait à son acte, vous voyez? Et là, ça a commencé à faire tilt en moi, vous voyez? Plutôt que de dire tout le monde pense qu'il est fou ou alors il fait n'importe quoi. Non, non, voilà, il faut que moi je me mette dans la position de quelqu'un qui se rend compte que je ne comprends pas ce qu'il fait. Je ne suis pas capable de dire ce qu'il fait. J'ai oublié de vous dire que cet homme ne parlait pas. Enfin, il disait toujours il m'a dit. C'était toujours il. J'ai jamais su de qui il parlait. Parfois, à table, il engueulait le frère en face. Je ne savais pas pourquoi. Alors, le frère en face était. Accepter ça. Enfin, c'était assez marrant. Vous savez, il se faisait engueuler pendant 5 minutes. Et puis, c'était tous les jours, 5 minutes pendant le repas. Mais pas de sens non plus, vous voyez. Et donc, je n'ai jamais pu parler avec lui. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, voilà, là, je suis face au mystère de l'autre. Cet homme m'échappe. M'échappe. Sa complexité. Et puis, comme on n'avait pas le moyen de parler tous les deux, j'ai pris aussi la conscience de la place essentielle du corps. Parce que si il ne parle pas avec la bouche, il parle avec son corps, voyez? Et là aussi, ça m'a beaucoup fait grandir, entre guillemets, sur la place essentielle du corps. Vous savez que dans le monde chrétien, le corps est le grand absent, hein, même si, hélas. Mais enfin, en tout cas, là, entre nous, il n'y avait que le langage du corps, hein, le reste, ça ne marchait pas, quoi, hein. Donc voilà, tout ça, vous voyez, ça m'avait beaucoup interrogé et je me suis dit, attention à ne pas psychologiser le mystère de la personne. À partir du moment où on commence à psychologiser une personne, on commence à la faire entrer dans des cadres et c'est fini, il n'y a plus de personne, hein. Ça ne veut pas dire que la psychologie ne sert à rien, ce que je veux dire, hein, mais ça ne peut pas être, comment dire, un moyen de connaissance totale d'une personne. C'est juste un petit moyen. Alors, sur la sortie du réfectoire, donc, maintenant, c'est moi qui devais le conduire du réfectoire jusqu'à sa chambre. Alors, je me suis dit, non, comment je peux faire pour ne pas le toucher? Alors, j'ai pensé au déambulateur. C'est tout bête, hein? Donc, je lui ai mis un déambulateur dans les mains. Et alors, ce que je. Donc, vraiment, il arrivait à marcher. Alors, parfois, il allait vers le mur, donc je réorientais vers le tournant, vous voyez. Mais j'essayais vraiment de ne pas toucher ce qu'il faisait. Donc, je m'imposais d'aller à son rythme, de ne pas le toucher, de pas le. Parce que, bon, c'est facile aussi de tirer avec un déambulateur, hein. En plus, ça roule. Donc, c'est encore mieux. Non, non, je me mettais à côté. Je marchais à côté. Donc, intervenir le moins possible. Me mettre à son rythme en marchant à côté de lui. Alors, il a fallu que je convertisse mon impatience, hein, mon propre rythme. Et, épouser volontiers le rythme de l'autre. Aimer cela. Vous voyez, ces 5 minutes-là que je passais avec lui, disons, du réfectoire à. J'ai commencé à aimer ce moment. J'ai aimé le fait que je ne puisse pas le toucher, que je ne puisse pas marcher à mon rythme, parce que c'était ma manière à moi, disons, d'aimer un peu cet homme, en fait, vous voyez. Et je me rappelle une fois, alors avec cet homme, on avait, vous savez, les poubelles de l'infirmerie étaient mises dans un petit chariot. Alors j'avais institué, je m'étais dit, mais on va aller porter le chariot tous les deux avec cet homme. Alors évidemment, il n'était pas capable de conduire le chariot. Donc je me mettais devant pour, disons, assurer la direction, puis lui, il poussait. Et je faisais en sorte vraiment de ne pas tirer pour qu'il pousse. Alors, je disais, père, poussez, parce que c'est à vous de pousser, c'est pas moi à tirer, hein. Et je me rappelle un frère un jour qui me croise et qui me dit, on dirait vraiment un maître et son disciple. J'ai dit, tu as raison. Mais je pense que tu dois inverser les rôles. Parce que comme j'étais devant, c'était un peu trompeur. Mais j'étais derrière, en fait. Mais bon, ça, il ne pouvait pas le savoir, le frère. Alors vraiment, voilà, ne pas faire ça à contre-cœur, quoi. Vraiment. Hein. Découverte qu'un être humain est essentiellement un rythme. Et ça, pour moi, ça a été très, très fondamental. Voilà, c'est cet homme-là qui m'a appris ça, qui m'a dit, un être humain, c'est un rythme. Alors, rythme au sens de. C'est une musique, vous voyez? C'est un rythme au sens où il y a une certaine manière de. C'est de ne pas confondre avec tempo, hein. Le tempo, c'est la vitesse. Le problème, c'est que la vitesse, ça ne nous permet pas de rencontrer l'autre. Parce que je vais. Vous voyez, je vais essayer de le mettre à ma vitesse à moi. Mais non, non. Il faut vraiment essayer d'épouser le rythme de l'autre. Le rythme, c'est très complexe, hein. Voilà, découverte qu'un être humain est essentiellement un rythme et que je ne peux le rencontrer que si je parviens à adopter, à épouser son rythme. Hein, épouser, vous voyez, comme on épouse un homme ou une femme. Vraiment, voilà, je me mets là-dedans, quoi. Revoir entièrement, bien sûr, la question de la lenteur, de la paresse, de la mauvaise volonté, tout ça, c'est. Parce qu'évidemment, si vous voulez, il fallait que je lui dise, par exemple, pour qu'il se lève au réfectoire, il fallait que je lui répète la plupart du temps 6 fois. Levez-vous, père. Oui. Levez-vous, père. Oui. Levez-vous, père. Oui. Levez-vous, père. 6 fois. À la 6e fois, il se levait. Pourquoi 6 fois? J'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il voulait exercer ma charité très, très, très active. Mais en tout cas, je vous assure, c'était 6 fois et à chaque repas. Hein. Mais bon, après, on a compris. On sait que c'est 6 fois, donc on redit 6 fois, puis c'est bon. Mais vous voyez, voilà. En tout cas, voilà. Et alors, le repas, il fallait donc que je prenne en charge le repas. Alors, je ne vous dis pas, le premier, je me suis dit, non, mais comment on fait le faire manger cet homme? Mais ce n'est pas possible. C'est pas respectueux. Je suis sûr qu'il peut manger. Je suis sûr. J'étais sûr parce que bon, On déplaçait des chariots ensemble, on faisait des trucs ensemble. Je me suis dit, il doit savoir manger. C'est moi qui dois trouver le rythme pour qu'il puisse manger. Alors, je ne vous dis pas que ce n'était pas gagné. Alors, le premier repas où je fais ça, donc, très, très, comment dire, très, très gagnant, très partant. Oh, première cuillère, deuxième cuillère, troisième cuillère, quatrième. Rien, 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 rien. Je me suis dit, bon, les carottes râpées, c'est râpé, on va essayer les courgettes. Les courgettes, une fois, deux fois, trois fois. Parce qu'en fait, si vous voulez, donc j'initie le mouvement en espérant qu'ils finissent le geste. Rien, mais rien. Six fois les courgettes. Six fois, huit fois le poisson. Il y a un moment, on se dit, bon, ils ont raison, les autres. En fait, c'est, j'ai inventé, c'est bon. Je me suis trompé, tant pis. Bon, il va falloir se résoudre à le faire manger. Et donc, comme il y avait plusieurs frères à table, à ce moment-là, je devais servir aussi les autres. Et à la fin du repas, miracle, il a mis la cuillère dans le yaourt. Le yaourt! Il a mangé le yaourt, il l'a fait une fois. Ah, alors je me suis dit, c'est ça. Parce que les frères m'avaient dit, tu sais, tu vas voir, mais lui, parce qu'il me disait, tu vas voir, ça sert à rien ce que tu fais, hein. Bon, les frères sont toujours très gentils. Hein. Ça sert à rien parce que, vous savez, quand on le fait six fois, c'est long quand même. Hein. Et les frères me disaient, mais arrête, tu vois bien que ça ne marche pas, quoi. Bon, et moi, je me disais, oui, tu as raison, mais bon. Et un jour, donc, il a pris, il a de lui-même, il a mangé une cuillère de yaourt. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné. En fait, je m'étais rendu compte il fallait que je mette un certain nombre de fois l'initiation du geste pour qu'il arrive à faire le geste lui-même. Et à certains moments du repas, mystérieusement, il reperdait le geste, donc je devais recommencer. Mais je savais que si j'étais le nombre de fois qu'il fallait, j'allais arriver au moment où lui, il allait le faire. Et il s'est mis à manger tout seul. Alors évidemment, chaotiquement, hein. Il fallait que de temps en temps, je répète. Et ça, pour moi, ça a été très, très fort, vraiment, presque ressusciter un mort, quoi, vous comprenez, hein. Au moins. Alors, ne jamais, jamais présumer ce qu'un être humain peut faire ou ne pas faire. À partir du moment où le frère avant moi avait présumé que cet homme ne pouvait rien faire, il ferait rien. Finalement, l'autre, il fait ce que je pense de lui. Vous voyez, ça c'est. Et surtout des gens qui sont en situation de handicap, ils vont forcément se réduire eux-mêmes à ce que moi je leur dis dans mon regard. Vous voyez, et ça c'est. Terrible. Passer de il est comme ça, ce que j'ai souvent entendu dans mon monastère et qui est une formule qui me fait bondir, j'ai horreur de ça, à il en est là maintenant, à ce moment X, en acceptant que dans 15 secondes, ça peut être différent. Voyez? Il en est là. C'est pas pareil de dire il en est là et de dire il est comme ça, définitif. Voilà, donc je n'ai accès qu'à une photographie à un instant X, j'ai accès à rien d'autre, quoi. Voilà. Et en réfléchissant à ces trois points, je me suis rendu compte que c'était en fait à mettre en rapport avec les vertus théologales. Enfin, ça vous paraît peut-être un peu fumeux comme ça, mais vous allez voir. En fait, l'histoire de la vaisselle et de cette complexité de l'être humain, ça m'a mis en rapport avec la foi. Voilà. La foi, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas d'abord une compréhension. C'est une manière de connaître quelqu'un comme quelqu'un qui m'échappe. Finalement, la foi, ce serait de dire, c'est pas que je connais Dieu, je le connais comme mystère. Et c'est ça ma connaissance de Dieu. Ma connaissance de Dieu, c'est de le connaître comme un mystère. Et grâce au frère Joseph, je me suis rendu compte que l'homme, il était aussi mystérieux que Dieu. Vous voyez? Un être humain est aussi mystérieux que Dieu. C'est pas plus. Un mystère, c'est un mystère. C'est pas plus, pas moins. Vous voyez? Surtout, ce que je prends conscience, voilà, que cet autre. Je ne peux pas le connaître, je ne peux pas en faire le tour. Il m'échappe d'une manière ou d'une autre, et c'est ça ma joie. C'est une joie qui doit être. Pour moi, ça doit être une joie de ne pas pouvoir circonscrire quelqu'un, vous voyez? Ça, c'était ce que j'avais vu dans la vaisselle. La sortie du réfectoire avec le fait de changer de rythme, je me suis dit, c'est une très belle image de la charité. C'est ça la charité, en fait. La charité, c'est d'épouser le rythme de quelqu'un. Vous voyez? Hein, c'est très important. Et finalement, dans cette charité que je pouvais commencer à expérimenter grâce au frère Joseph, cela me renvoyait à l'expérience que moi-même, je fais de la manière dont Dieu s'y prend avec moi. Hein? Une fois, une dame me disait, qu'est-ce qu'il a mis du temps, Dieu, avec moi? Ah, j'ai dit, non, madame, je pense qu'il a mis, il n'a pas mis son, il a pas pris son temps. Parce qu'elle m'a dit, il a pris son temps. Hein? J'ai dit, non, il n'a pas pris son temps, il a pris le vôtre. Voilà. Il a mis le temps qu'il vous a fallu pour que. Et ça, c'est de l'amour, ça. Hein? Et donc, voilà, j'expérimentais avec cet homme ce que je voyais que Dieu faisait avec moi, vous voyez. Donc, ça, c'était très beau. Et aussi, donc, à l'histoire du repas, l'expérience avec l'interdiction de présumer ce dont un être humain est capable ou pas. Vous savez que Peggy parle de l'espérance comme d'une petite fille. Donc, quelque chose qui me ramène certainement à mon origine, hein, à la capacité immense qu'a un enfant de croire des choses incroyables. C'était incroyable de croire que cet homme, il pouvait manger seul. Parce que tous les actes qu'il posait disaient le contraire. Voyez. Alors, le passage, bon, moi je suis jardinier, hein, le passage du gland au chêne, vous voyez, c'est-à-dire, voilà ce que je perçois dans cet homme. Mais si c'est un gland, ça donne un chêne quand même. Vous voyez? Donc ce n'est pas ce que je perçois qui compte. Ce qui compte, c'est que cette... Ah, il m'acclame, je crois, non? Mais comme il ne m'écoute pas, il m'acclame. Les gens qui m'écoutent, ils ne m'acclament pas. Pardon, c'est une bêtise. Et donc, voilà, vous voyez, le gland... Vraiment, le gland, voilà. Comment, enfin, moi je vois des glands et je vois des chaînes. Je peux vous assurer que pour faire le rapprochement, ce n'est pas évident quand même. On se dit qu'il faut s'accrocher quand même. Entre le gland et le chêne, ce n'est pas si évident. Et pourtant, c'est ça qui se passe. Voilà. Voilà. Et pour finir sur ces vertus théologales, je pense que l'espérance, en fait, gland-chêne, ça m'a mis en évidence l'idée d'une disproportion. Vous voyez? Il faut que j'ai cette relation de disproportion avec un être humain. Vous voyez, ce sentiment que j'ai avec Dieu d'être dans la disproportion, quand même, il est quand même un peu plus que moi, ou un peu moins, je ne sais pas, enfin, en tout cas, vous voyez, on a ce sentiment avec Dieu, de, je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous, mais on a le sentiment que la relation avec Dieu se fonde sur une forme de disproportion. Eh bien, ça, il faut l'avoir aussi avec un être humain. C'est la même chose. Vous voyez? C'est comme ça que l'on peut, disons, rendre compte de la relation que j'ai avec un autre. Il y a une disproportion de fond, de base. Et vous savez que... Alors, je veux faire une remarque à ce propos. Tout système égalitaire est foncièrement injuste. C'est ce que nous ont appris les totalitarismes du XXe siècle. À partir de moi, on veut tout le monde, tout pareil. Et l'Église, là-dessus, a été tentée en partie de faire ça, hein, comme tout système, hein, totalitaire, entre guillemets. Évidemment, à partir du moment où on veut que tout le monde soit pareil, c'est forcément injuste. C'est le problème, je suis ancien prof, c'est le problème du système scolaire. Le système scolaire, il est fait pour un certain type d'élèves. Donc forcément, tous les autres, c'est-à-dire... peut-être au moins la moitié, au moins, hein, est forcément mis en échec. Hein, parce que la question du rythme, hein, tout ça, la question des capacités, on ne tient compte, par exemple, jamais, je me suis rendu compte, on ne tient jamais compte, quand un élève revient d'une maladie, on ne tient jamais compte de la convalescence. Quand il revient, forcément, il va bien. Et non. Il est forcément dans un état de convalescence, on n'en tient jamais compte. Hein, voyez. Donc ça nous rend très, très foncièrement injustes. Les besoins de chaque personne sont fondamentalement uniques et personnels. Alors pensez à la tour de Babel, la ville de l'uniformisation par excellence. Hein, il fallait construire une ville, tout était... Alors, le texte a l'air de dire que c'est bien, mais je vous assure que non, hein. Alors après, on ne comprend pas bien l'attitude de Dieu, parce qu'il dit « Oh, ça ne me plaît pas, ça. En plus, il a l'air de dire, oui, ils vont monter jusqu'au ciel, c'est de la rivalité, j'en veux pas. Alors, on a l'impression que Dieu, il détruit la ville parce que il pense qu'il va y avoir des rivaux. Mais non, il est en train de défendre la diversité humaine. Parce qu'en fait, le texte montre bien que cette construction, elle est faite par uniformité, vous voyez, hein? On réduit tout le monde à la même brique, en fait. Voilà, l'expérience donc que je viens de vous raconter m'a placé dans une disproportion quasi totale avec ce frère, puisque au départ, j'étais censé m'en occuper, et puis très vite, je me rends compte que c'est lui qui s'occupe de moi, alors qu'il me dit rien, hein, il peut rien me dire de toute façon. Et puis, vous voyez, j'ai découvert que voilà, Jésus il est passé là. Pour moi, c'est une expérience mystique. Au sens fort du terme, c'est-à-dire j'ai vu Jésus agir là, dans cet homme qui ne pouvait rien faire, qui était nul, qui était malade, qui ne pouvait pas aligner trois mots. Et c'est là que, pour moi, c'est une des expériences les plus fortes de ma vie, vous voyez. Hein? Alors justement, alors il me reste 10 minutes, je crois. Hein? Non, 4h, 4h05, c'est quoi?
Oui, bah sinon, vous faites deux fois 1 heure, ça
Non, 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 il faut que vous, faut qu'on débatte. Non, mais j'ai fini là, je vais aller vite. Alors, voilà, maintenant, donc, je voudrais, voilà, puisque je viens de parler du Christ, vous voyez, j'ai découvert Jésus dans cet homme. Vraiment. Vous voyez, pour moi, Jésus, il est là. C'est lui. C'est cet homme qui. Et alors, le jour où un frère meurt, la communauté, vous savez, se réunit, on parle du frère. Et quand j'ai entendu ce que mes frères disaient de mon frère Joseph, mon maître, mon gourou, mon tout ce que vous voudrez, mon Dieu, mon absolu, je me suis dit, mais comment je vais faire pour leur dire ce que moi j'ai vécu avec cet homme? J'ai pas pu. Parce que tu sais, bon, j'entendais, c'est un brave homme, il était gentil, bon, il se mettait parfois en colère, c'est vrai. Mais je me suis dit, mais comment je peux leur dire que pour moi il a changé ma vie? Ils vont pas me croire, c'est pas possible. Donc j'ai pas pu le raconter, vous voyez, parce que je me suis dit, vraiment, tu es hors sujet, hein, c'est pas la peine. Donc je me suis tu et j'ai gardé pour moi. Alors je le raconte à voilà des gens comme vous, voyez, par exemple, en me disant voilà. Et je sais que ça touche les cœurs. Ce père Joseph, il touche les cœurs en fait. Je me suis rendu compte. Bon, quel mystère. Alors j'ai intitulé la troisième partie donc deux espaces chrétiens de transformation. Parce que je pense qu'on n'insistera jamais assez pour parler de Dieu comme celui qui transforme. Vous voyez, l'expérience que je peux dire que mon expérience avec cet homme, elle est chrétienne parce qu'elle m'a transformé, parce qu'elle m'a libéré, parce qu'elle m'a donné connaissance de l'être humain comme jamais j'aurais pu l'avoir par un autre moyen. Vous voyez, ça m'a transformé et on peut dire qu'à partir du moment où il y a une transformation, il y a quelque chose du Christ qui s'est passé en moi. Voilà. Alors le mystère chrétien n'est pas seulement une connaissance, hein, c'est pas une gnose. C'est un processus de transformation profonde à partir de l'intérieur de la personne. Et comme ça se passe à partir de l'intérieur de la personne, c'est forcément long, lent et souvent invisible. Vous voyez? Ce qui s'est passé avec mon père Joseph, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Il y a juste des frères qui m'ont dit, mais dis donc, t'es un peu têtu hein, quand même avec ton histoire des. J'ai dit oui, alors j'ai dit oui, je suis têtu. Mais je ne pouvais pas accepter que mon père Joseph, je lui fasse manger. Moi, j'y arrivais pas, hein, voyez, je ne pouvais pas. Donc on m'a dit que j'étais têtu, que j'étais tout ce qu'on voudra. Alors que moi, j'étais en train de vivre une expérience qui me transformait très très profondément. Voyez. Donc vous voyez, l'impossibilité de la partager, cette expérience aussi. Hein. Alors, pensez à la parabole du semeur dans l'Évangile, qui est une des paraboles essentielles pour comprendre la manière dont Jésus envisage l'Évangile, l'annonce de l'Évangile dans le monde. Vous voyez, la parabole du semeur, c'est vraiment la manière dont Jésus nous dit, voilà comment l'Évangile va agir dans ta vie, dans la vie du monde. Comme une semence. Et une semence, je vous assure, ça. Là, moi, j'ai planté des trucs, pendant des semaines, il ne se passe rien, hein, voire rien. À un moment, on se dit, bon, c'est bon, je me tourne seul, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, les graines, elles étaient. Pas la peine, quoi. Mais il y a un jour, ça sort. Alors, donc, deux choses, voudrais finir. La manière de faire de Jésus dans l'Évangile. relever quelques points. Sa manière de rencontrer l'homme, en particulier dans l'acte de la guérison, hein, c'est un acte de soin, hein, c'est une forme de service rendu. Alors j'ai six petits points que je voudrais, disons, pointer dans la manière dont Jésus fait. D'abord, le Christ rencontre n'importe qui, mais vraiment n'importe qui. Le lépreux, l'occupant romain, la samaritaine, mais aussi le pharisien, le prêtre du temple, le roi Hérode. Il rencontre n'importe qui. Il n'y a personne qui lui paraît, disons, inintéressant. Et ça, c'est très important pour nous, parce que souvent, on fait le tri. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais nous, on fait le tri. Les couloirs sont suffisamment grands chez nous pour qu'on puisse passer, qu'on fasse un détour pour ne pas voir telle personne. Vous voyez ? Hein, c'est rien. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut très bien ne pas se mettre dans les conditions de ne pas rencontrer quelqu'un. Et ça, on peut dire que ce n'est pas christique. Ce n'est pas chrétien. Alors, chrétien, j'ai dit christique pour dire que ce n'est pas ce que le Christ a fait. Hein. Parce que le mot chrétien, souvent, c'est un peu trop moral, pour, je trouve. Donc, je préfère dire christique pour dire le Christ ne fait pas comme ça. Il rencontre n'importe qui. Alors, pensez à la composition de ce qu'on appelle le collège des apôtres. Alors là, j'ai bien rigolé avec les antiennes qu'on a chantées pour Saint-Pierre et Saint-Paul. Les princes des apôtres. Les princes des apôtres. Bah, attendez, mais c'était Pierre. Pierre, un pêcheur. Pêcheur de mer. Hein, un pêcheur. Vous imaginez le prince? Il n'avait pas de couronne, il n'avait pas de beaux habits. Il était à poil, excusez-moi un moment. Enfin bon, dans l'évangile, même dès qu'il voit Jésus, il se couvre. Alors, on ne comprend pas très bien pourquoi, mais enfin, en tout cas, il le fait. Le prince des apôtres. Vous voyez, nos mots sont très... c'est un peu bizarre, quand même, cette manière de parler, quand même. Puis donc, Jésus choisit quatre pêcheurs marins, hein, parce qu'ils pêchent avec un filet, donc c'est vraiment des pêcheurs de mer. Hein. Un collecteur d'impôts, un zélote, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre l'occupant romain, alors que le collecteur d'impôts, lui, est plutôt du côté pour. Enfin, c'était pas évident, hein, les apôtres, hein. Deuxième point, le Christ rencontre le tout venant à partir de n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez été rendu compte. Il répond à toute demande. Il rencontre la femme hémorroïs sur son problème de sang. Or, vous savez que les pertes de sang rendaient la femme impure. Et donc, il fallait qu'elle cache ça. Enfin, la vie sociale était très compliquée pour elle. Et c'est ça que dans l'évangile, dans la foule, elle raconte aux gens. Vous voyez, enfin, c'est quand même... Ça vous paraît pas étonnant, cette intimité qui est là, qui est mise devant tout le monde. Voilà, Jésus, il fait comme ça. Jésus, il rencontre vraiment n'importe quoi dans n'importe qui. Ça, il faut le faire, quand même. Hein. Et moi, je pense aussi, quand il répond à Jacques et à Jean, qui veulent être, vous savez, les premiers dans le royaume, il répond, il ne dit pas, oh là là, quelle honte, après, ça fait 2 ans que tu es avec moi, et tu es encore en train de penser que tu veux être le premier. Mais non, si tu veux être le premier, ben, tu vas faire ça, tu prends la dernière place. Bon, la réponse est un peu surprenante, mais il répond à la demande, vous voyez. Donc ça, c'est très important. Pas d'évaluation, pas de jugement sur la demande qui lui est faite. Jésus répond à la demande que je lui fais. Troisième point, il ne s'attribue pas la guérison, mais il dit « ta foi t'a sauvé ». Ça aussi, c'est surprenant quand même. La seule exigence, c'est de croire en lui. Alors, de croire au sens, pas de dire le catéchisme, hein. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu crois que moi, Jésus, je peux te guérir? C'est la seule chose qu'il demande à la personne qui va être guérie. Donc, vraiment, la foi, là, c'est un acte relationnel, vous voyez. Ce n'est pas du tout un contenu, ce n'est pas du tout la reconnaissance que Jésus est Dieu. Rien à voir avec la choucroute, je dirais. C'est simplement, est-ce que dans la relation que tu as avec moi là maintenant, tu peux dire, je te fais confiance, tu peux me guérir. C'est la seule chose que Jésus demande. Alors, aussi, du quatrième point, pas de préparation exigée, pas de séminaire pendant 5 ans pour être prêtre, pas de catéchisme sur 3 ans pour pouvoir... Rappelez-vous, voilà, c'est ça. Rappelez-vous qu'à Bernadette Soubirous, on lui a refusé la communion parce qu'elle ne comprenait rien à la Trinité. Je pense que le prêtre en face ne devait pas y comprendre beaucoup non plus. Mais enfin, ça, on ne lui a pas dit. Moi, j'aurais répondu ça. J'ai dit, attendez, vous dites que je ne comprends rien, mais toi, tu comprends, toi? La réponse de Benoît Labre est magnifique. Donc, vous savez, il venait, ce clochard, c'est un clochard. Il venait donc dans un village, il assistait au catéchisme, et le curé, qui n'était pas très sympa, peut-être, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Sinon, tu comprends rien quand je te parle. Et Benoît Labre a eu cette réponse merveilleuse, je ne comprends rien, mais je brûle. Brûle. Ah, c'est magnifique, quoi. Alors, le prêtre ne brûlait pas, mais il comprenait tout. Moi, j'avoue que je préfère ne rien comprendre et brûler. C'est une magnifique réponse. Je ne comprends rien. Oui, je comprends rien, c'est clair, mais ça me brûle. Donc, pas de préparation exigée. Rencontre immédiate d'un besoin élémentaire exprimé. Voilà. C'est comme ça que Jésus rencontre quelqu'un. Et je pense que c'est là que notre service, il est à revoir beaucoup, c'est que est-ce que je rends l'autre capable d'exprimer son vrai besoin? Parce que c'est moi qui fais le bas, c'est moi qui suis obstacle là-dessus, hein. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre qui peut pas le dire, c'est que c'est moi qui peut-être l'empêche. Et on pourrait résumer en disant, l'autre pourrait me dire, je ne trouve pas en toi ce dont j'ai besoin pour pouvoir te parler. Oui, souvent on croit que c'est l'autre qui est bloqué, mais non, c'est moi qui le bloque. Voilà, hein. Alors, aussi, cinquième point que je voudrais souligner dans l'évangile, il y a toujours un dialogue. Il n'y a jamais de guérison sans dialogue. Toujours un dialogue. La personne rencontrée par Jésus peut lui exprimer son besoin intime, absolument personnel, même honteux. Vérité nue de l'homme retrouvé. Et un des cas où justement il n'y a pas eu de dialogue, c'est avec la femme, vous savez, pécheresse, dite pécheresse, là, qui rentre chez Simon le pharisien et qui se met aux pieds de Jésus et qui pleure. Alors, les pleurs est un langage, mais alors, ce qui est étonnant, c'est que la femme ne dit rien, mais Jésus va décrire ce que fait la femme pour en fait la faire parler. Parce qu'en fait, elle peut pas dire. En fait, c'est la femme qui répond au jugement du pharisien. C'est ce que Jésus fait, en fait. Il se sert de ce que la femme fait pour répondre au jugement que le pharisien pose sur cette femme. Et puis, un dernier élément très, très fondamental, et ça me semble vraiment à creuser très fort, silence absolu du récit évangélique sur la suite et la conséquence de la guérison. On ne sait jamais ce qu'un homme guéri devient. Très, très, c'est rare ici. Quand il y a, bon, il y a Marie-Madeleine, hein, guérie de sept démons, qui devient apôtre des apôtres, comme disent les dominicains, mais on ne sait quasiment jamais ce qui se passe pour un être humain guéri par Jésus. L'évangile ne dit rien de ça. J'aimerais tellement que l'Église fasse pareil. J'avoue. Parce que ça, quand même, c'est impressionnant, quoi. Le Christ ne s'empare pas de la guérison, ne s'en sert pas. Rien. Comment il fait? Enfin, alors, comparé avec l'Église qui voudrait, oh, excusez-moi, fermer le micro, comparé avec l'Église qui voudrait bien utiliser le baptisé et lui confier une mission. Hein, bon, dans l'Église, dès qu'on a en recommençant un baptisé, un machin, c'est tout de suite, ah super, tu vas voir, tu vas rendre service. Hein, tu vas, voilà. Et tout de suite, c'est immédiat. Hein, bon, quel dommage. Alors, convenir que cette façon de faire de Jésus contredit le plus souvent ma manière d'agir et de servir, quand même, hein, c'est pour ça que la fréquentation des évangiles en particulier me paraît très très forte, très importante. Alors, un point déterminant qu'on pourrait, mais il faut que je m'arrête, de la manière dont Jésus rencontre et sert le besoin de l'homme qu'il rencontre, voilà, il y a le surgissement d'un je. Quelqu'un sort de l'anonymat. C'est toujours, il sort de la foule, vous voyez. Avènement d'une personne rendue à elle-même et dans son intégralité. C'est-à-dire avec son corps. Avec son corps, parce que c'est souvent le corps qui faisait problème jusque-là, vous voyez. La rencontre avec Jésus restaure l'intégralité de la personne. Savons-nous faire cela dans nos rencontres et dans nos services rendus?